Voilà, bonjour à tous. Voilà, on va ouvrir la Bible, je crois que c'est le plus important, ouvrir la parole de Dieu. Dans le psaume 114, les 8 premiers versets. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir ? Jourdain, pour retourner en arrière ? Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux ? Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étant le roc en source d'eau. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ces instants, merci pour la communion fraternelle, merci surtout pour ta présence parmi nous, parce que sans toi, ces moments seraient vains. Seigneur, ce lieu serait vide. Mais Seigneur, merci parce que ta gloire, elle est là. Et Seigneur, elle nous couvre. Seigneur, elle nous fortifie, elle nous relève, elle nous console, elle nous fait du bien. On te bénit, Seigneur, pour l'action de ton esprit. On te loue, Seigneur, eh bien, pour cette parole qui est pour nous, cette nourriture, Seigneur, dont nous avons tellement besoin. Seigneur, viens nous fortifier ce matin. Viens nous parler ce matin. Seigneur, moi, je veux te laisser toute la place. Je veux être simplement un instrument entre tes mains. Seigneur, je m'humilie devant toi parce que je suis rien sans toi. Je peux rien faire sans toi. Viens, Seigneur, à mon secours. Donne-moi, Seigneur, d'apporter ta parole ce matin de tout mon cœur et avec l'inspiration de ton esprit, que ta parole puisse toucher nos cœurs, interpeller nos cœurs et nous amener toujours plus loin, toujours plus près de toi, dans le beau nom de Jésus. Bénis cette église. Bénis, Seigneur, tous ceux qui sont responsables de cette église. Que ta bénédiction, Seigneur, soit sur chacun dans le beau nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Voilà un merveilleux psaume qui nous parle et qui nous retrace l'histoire du peuple d'Israël. Il est dit « Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare ». Alors, il est vrai que tout le monde connaît l'histoire de Moïse. Je pense que tout le monde se rappelle comment Moïse à libérer le peuple d'Israël qui était sous la servitude du pharaon d'Égypte. Et on se rappelle aussi que cette servitude, cet esclavage, il a duré 400 années, 400 ans d'esclavage. Et c'est vrai que la volonté de Dieu était de délivrer ce peuple, était de sortir ce peuple du pays d'Égypte pour le faire entrer dans le beau pays, dans le pays où coule le lait et le miel. Mais, vous le savez, entre la sortie du pays d'Égypte et l'entrée dans le pays promis, eh bien, il y a eu une longue marche qui a duré quand même 40 ans. 40 ans, c'est long, c'est très long. Et pendant ces 40 années, vous le savez, Dieu va être obligé, parce que la parole de Dieu nous dit que c'était un peuple au cou raide. Et ils avaient du mal à obéir, ils avaient du mal à se discipliner, ils avaient du mal à se soumettre à la volonté de Dieu. Mais Dieu, eh bien, dans sa bonté et en même temps dans sa sévérité, eh bien, va apprendre à ce peuple à dépendre de lui, à obéir à ses commandements, à se sanctifier. Et on peut voir que plus ce peuple s'approchait de Dieu, plus il s'approchait de Dieu, et plus il s'approchait du pays de la promesse. Et plus il s'éloignait de Dieu, et plus il s'éloignait du pays de la promesse. Et la parole de Dieu nous dit aussi, et c'est la Bible qui le dit, ne pas tout dire. La parole de Dieu nous dit que beaucoup, beaucoup vont mourir, toute une génération même va mourir dans le désert et tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas se conformer aux exigences de Dieu. Et je crois que, mes frères et sœurs, il y a un rapprochement entre le peuple d'Israël et nous, chrétiens, l'Église de Jésus-Christ. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est l'apôtre Paul qui nous le dit, et il le souligne dans cette première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 11. Il nous dit, l'apôtre, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes arrivés à la fin des siècles. Amen. À la fin des siècles. Et je crois qu'il y a un parallèle à faire entre, cette sortie d'Égypte, cette marche dans le désert, et puis cette entrée dans le pays promis, avec aussi notre marche à nous. Béni soit le jour où ce libérateur, notre divin libérateur, en la personne de Jésus-Christ, est venu jusqu'à nous. Et notre Seigneur a vu notre servitude. Nous étions tous esclaves du péché, nous étions dans les chaînes. Et le Seigneur, dans sa bonté, dans sa grâce, est venu jusqu'à nous et nous a délivrés. Il nous a sortis, nous a libérés de la puissance du péché, du joug tyrannique de Satan. Et c'est vrai qu'une fois libérés, la volonté de Dieu est de nous conduire, dans ce beau pays, dans le royaume des cieux. Alléluia. Et c'est vrai que il y a dans cette perspective, il y a une marche où nous allons devoir apprendre, à faire la volonté de Dieu, à nous soumettre aux exigences de la parole de Dieu. Nous sommes, je crois, la plupart d'entre nous engagés avec le Seigneur. Nous sommes passés par les eaux du baptême. Certains cet après-midi le feront, et béni soit le Seigneur pour cela. Et c'est vrai que le Seigneur nous appelle à sortir. Quand Israël sortit d'Égypte, et l'Église, c'est une assemblée d'hommes et de femmes qui sont sortis. Du reste, le mot Église, c'est bien de se le rappeler, ça veut dire celle qui est appelée hors d'eux. Hors de quoi? Hors de ce monde d'iniquité, hors de ce monde de perdition. Et c'est le Seigneur qui est venu nous sortir de là. Et la volonté de Dieu, c'est de faire de nous un peuple saint, un peuple qui va le servir, qui va le glorifier. Et tout cela, ça se fait pas en une seconde, ça se fait pas en cinq minutes. Il va y avoir toute une marche où nous allons devoir tous ici, même moi encore aujourd'hui, apprendre à discerner la volonté de Dieu, à me soumettre à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai une nature qui est rebelle, qui est pécheresse. Et cette ancienne nature, même si on dit qu'elle a été crucifiée, qu'elle est là même dans l'eau du baptême, n'empêche que, elle est toujours un peu là pour nous troubler, pour nous décourager, pour nous empêcher même d'atteindre ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Alors, il est important de savoir cela. Nous sommes toujours dans le monde, nous dit le Seigneur, nous sommes toujours dans le monde, mais nous ne faisons plus partie de ce monde, de la mentalité de ce monde, de l'esprit de ce monde. Le problème du peuple d'Israël, c'est qu'il était sorti du pays d'Égypte, mais son cœur était toujours en Égypte, et ça ne pouvait pas marcher. Du reste, si vous lisez Actes chapitre 7, il faudrait tout lire, mais vous le lirez chez vous, vous verrez que même là, au milieu du peuple de Dieu, alors qu'ils ont vu la gloire de Dieu se manifester, qu'ils ont vu les miracles de Dieu, il y avait encore là, dans les tentes de ces gens, il y avait encore des idoles. Des idoles qui traînaient dans certaines tentes qui étaient là. C'est marqué, vous lirez, Actes 7. Et il y avait encore là. Et c'est pour ça que même à un moment donné, c'est Étienne justement qui va dire cela. Et il dira que leur cœur était un cœur rebelle, désobéissant. Et ils ne voulaient pas se soumettre à la volonté de Dieu. Leur cœur était encore en Égypte. Leur cœur était encore en Égypte. Il ne faut pas que ça soit comme ça, avec nous aussi. Comprenez ? Tu ne peux pas dire « je suis chrétien, je suis dans l'Église » et faire n'importe quoi avec ta vie. Ça a été rappelé un petit peu ce matin. Et je crois que c'est important d'être dans le Seigneur, de marcher dans le Seigneur, de vivre pour le Seigneur. Nous n'avons plus rien à faire avec les choses de ce monde, avec les plaisirs de ce monde. Nous devons vraiment couper, nous séparer avec cela. Et justement, il est dit quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui s'éloigne des plaisirs de ce monde, qui s'éloigne du mal, qui s'éloigne de la mentalité de ce monde, pour s'approcher plus de Jésus, pour s'approcher de la parole de Dieu, pour venir dans sa présence, pour se fortifier ensemble dans la communion fraternelle. Et qu'il est bon d'être là ensemble ce matin, de former ce peuple, d'être là ensemble. Et vous savez, mes frères et sœurs, moi je bénis Dieu parce que c'est là que le Seigneur nous reprend. C'est là que le Seigneur nous interpelle. Il y en a qui n'aiment pas être interpellés. Hein ? Ils n'aiment pas être repris par la parole de Dieu. Ils n'aiment pas, mais c'est dommage. C'est dommage parce que où est-ce que tu vas être repris si ce n'est pas ici ? Devant ta télé ? Avec les gens du monde ? Mais c'est ici que le Seigneur va te reprendre. C'est le Seigneur qui va te corriger. C'est lui qui va te former. Amen. Et c'est dans l'Église. Et il se servira du prédicateur, de la prédication, de dons spirituels, et puis de tellement d'autres choses encore. Alors Seigneur, apprends-moi à m'éloigner des choses de ce monde. J'ai plus la mentalité de ce monde. On n'a plus les mêmes délires que les gens de ce monde. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus le droit de rire. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus le droit de plaisanter. J'ai pas dit ça, hein. Mais quand même, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. C'est vrai ou pas ? Il y a des choses qu'on ne peut plus dire. Il faut s'éloigner. Et vous savez comment ça s'appelle ? S'éloigner, ça s'appelle la sanctification. Oh, je sais que votre pasteur doit certainement vous en parler, de temps en temps. Un petit peu. Beaucoup, passionnément. La folie. Mais la parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3, ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut ? C'est votre sanctification. C'est la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous soyez séparés d'avec les choses de ce monde. Eh oui, je sais que tu travailles dans le monde. Je sais, Seigneur, il le sait aussi. On travaille tous, on est là dans le monde, mais on ne se mélange plus, on n'a plus les mêmes délires, on s'éloigne. Et on dit, ben tant pis pour eux, ben que Dieu les bénisse, mais moi je ne fais plus partie de ça. Et vous savez, sur le moment vous êtes moqué, vous êtes rejeté, vous êtes incompris, on vous dit que vous êtes un peu cinglé. Mais ça c'est la première réaction. La deuxième réaction que eux ils ont derrière tout cela, c'est comment il fait ? Ça ils vous le diront pas peut-être, mais ça les interpelle. Alors c'est pourquoi le psalmiste continue et il dit au verset 2, Juda devint son sanctuaire. Israël fut son domaine. Un sanctuaire, vous le savez, hein, c'est un lieu saint. C'est un lieu saint. Et puis un domaine, c'est une propriété. Une propriété qui appartient à quelqu'un. Hein. Eh bien, le peuple d'Israël va très vite comprendre qu'il ne s'appartenait plus à lui-même, mais qu'il appartenait à Dieu qui l'a racheté. Qu'il a racheté au prix du sang. Vous rappelez que, avant qu'ils ne sortent du pays promis, ils ont célébré la Pâque. Et l'agneau, eh bien, a été sacrifié. Et le sang a été répandu. Et mes frères et sœurs, nous sommes un peuple mis à part pour le Seigneur. Alléluia. Nous avons été lavés, purifiés dans le sang précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous devons comprendre une chose que parfois on a du mal à bien saisir, c'est que notre vie, mes frères et sœurs, ne nous appartient plus. Il nous a rachetés. Avant, tu appartenais à l'ennemi, au prince de ce monde. Mais il t'a racheté pour que tu sois avec lui, pour que tu le serves, amen, pour que tu le glorifies, pour que tu deviennes ce peuple qu'il adore, qu'il honore, qu'il le bénisse, amen. Alors, oui, nous sommes devenus la propriété de Dieu. Oh, que j'ai du mal des fois à le réaliser, Seigneur. Tu es, Seigneur, le propriétaire de ma vie. Tout ce que vous voyez là, c'est à Dieu. Amen. Il faut le réaliser, hein. Seigneur, aide-moi. Vous savez, le désir de Dieu, c'est vraiment qu'il prenne toute la place, qu'il soit le premier dans nos vies. Mais il est tellement bon, le Seigneur. Vous savez, un sanctuaire. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Amen. Vous savez, ce qui est malheureux parfois, c'est ce que je dis souvent à Seth, hein, à tous mes frères et sœurs là-bas aussi, c'est que des fois, on s'habitue à tout ça. On s'habitue, on est le temple du Saint-Esprit, le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché, alléluia, j'appartiens au Seigneur, je suis... Et puis entre ce que je sais avec ma tête et ce que je vis avec mon cœur, il y a des fois un petit écart, malheureusement. Non, c'est bon de se rappeler. Vous savez que Paul l'a rappelé ça aux Corinthiens. Oh, c'est vrai que quand on regarde un petit peu l'épître aux Corinthiens, quand on regarde l'église aux Corinthes, de Corinthe, moi des fois je dis Seigneur merci hein, pour l'église de Seth. Hein. Il y a des défauts, il y a des problèmes, mais bon, ce n'est pas l'église de Corinthe. Quoique. Mais en tous les cas, Paul a pu dire à plusieurs reprises à cette église, parce qu'elle avait du mal à le comprendre, à le réaliser. Il dira, ne savez-vous pas, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiant Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Que ma vie le glorifie, que mes paroles le glorifient, que mes attitudes le glorifient, que mon comportement le glorifie. Vous savez, on peut être ici très saint. Vous savez, on peut être très saint ici. Hein. On peut paraître très saint, clean, nickel. Hein. Et puis à l'extérieur, on ne sait pas ce qui se passe, mais Dieu le sait. Dieu le voit. Amen. Que le Seigneur puisse voir aussi à l'extérieur, eh bien, ce que nous faisons ici à l'intérieur. Alléluia, il faut que l'extérieur et l'intérieur soient pareils. Alléluia, que le Seigneur nous aide. Vous savez, Dieu n'aime pas les hypocrites. Il n'aime pas les doubles faces. Vous savez, ceux qui ici paraissent comme ça, là, bien clean, et puis à l'extérieur, on fait tout et n'importe quoi. Que Dieu nous garde de cette attitude-là qui déplaît à Dieu. Amen. On continue un peu. Verset 3. Il dit, « La mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. » Alors, là, il y a un petit peu toute la marche du peuple d'Israël, mais la mer rouge, les collines, les montagnes, le Jourdain ont été, si je peux m'exprimer comme ça, ont été des obstacles qui ont voulu empêcher le peuple d'Israël, eh bien, d'atteindre le but. Hein? Et je crois que, vous savez, mes frères et sœurs, il y aura toujours des choses. Hein? C'est incroyable, mais c'est la vérité. Et il y aura toujours des choses qui vont se dresser sur notre chemin. Hein? Il y aura toujours des choses qui vont essayer de nous empêcher d'atteindre le but. Hein, je ne sais pas pour vous, mais il suffit que tout d'un coup, et Dieu sait que des fois, on est bien disposé, et on prend des bonnes résolutions. Seigneur, tu vois, à partir de maintenant, Seigneur, tu vois, je veux prier davantage. pas parce que M. Go le dit tous les jours, mais parce que, Seigneur, c'est dans mon cœur, c'est une conviction que tu me donnes, et c'est bien quand Dieu te donne des convictions. Alors, vous prenez une résolution. Seigneur, je veux te prier. Et puis, une difficulté serait sur ton chemin, une contrariété, une opposition, quelque chose que tu n'avais pas prévu. Bam! Et là, ça bloque un peu. Et tu te dis, oh là là, je comprends pas, je veux adorer le Seigneur, je veux lui plaire, et voilà ce qui me tombe dessus, oh, mais j'en peux plus moi, si c'est ça, hein. C'est terrible, hein. C'est vrai, hein, des fois, il y a des tas de choses qui se mettent sur notre chemin, hein. Je veux me sanctifier, Seigneur. Je veux t'adorer. Je veux prendre, Seigneur, vraiment les choses, Seigneur, pour que vraiment ma vie te glorifie. Et puis, tabapa, plein de choses qui se mettent sur notre chemin. Mer, montagne, colline, fleuve. C'est spirituel tout ça, hein. Et on se dit, mais c'est pas possible, Seigneur. Alors, on a le choix. Soit on se décourage et on fait demi-tour. Ça, c'est dommage. Soit on dit, Seigneur, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, j'y vais. Même s'il faut que je traverse la mer, même s'il faut que je traverse le fleuve. Et puis alors le fleuve, mais pas le fleuve, vous savez, le fleuve Tari, hein, c'est le fleuve vraiment qui déborde sur ses rives, hein, c'est le fleuve tumultueux. Hein. Eh bien, Seigneur, avec ta grâce, j'y arriverai. Je ne sais pas comment. Mais j'y arriverai. Vous savez, le Seigneur, il aime les violents. Mais pas les violents qui donnent des coups de poing, hein, et des coups de pied. Les déterminés, ceux qui vont au bout de leur résolution et qui ne se laissent pas freiner, arrêter, décourager par la première petite contrariété. Des fois, une petite contrariété, hein, de rien du tout. Hein, et puis, on s'arrête. C'est dommage. Hein, c'est dommage. Alors, vous savez, Seigneur, aide-moi à franchir ces obstacles. Vous savez, j'ai marqué comme ça sur mes petites notes, parce qu'on a toujours des petites idées qui nous viennent à l'esprit, et j'ai marqué une mer de rancune. Une mer, hein, pas la mer, hein, pas maman, hein, mais une mer, quoique, bon, une mer de rancune. C'est terrible ça, hein, la rancune. Mais ça peut être un obstacle à ta vie spirituelle. Comment tu veux que Dieu te remplisse, te bénisse, te fasse voir ta gloire si tu es rempli de rancune? Des fois, on est comme, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Je comprends pourquoi le peuple d'Israël, sur le chemin, à un moment donné, ils ont voulu boire les eaux de Marat. Rappelez les eaux de Marat. Et puis, il a fallu que Moïse jette un bois là-dedans. Oui. C'est Jésus qui a pris nos rancunes. Si tu as de la rancune, mon frère, ça arrive, hein. Vous savez, c'est vite fait, la rancune, hein. Il ne faut pas croire qu'on est au-dessus de tout et que nous, il n'y a rien qui nous arrive. On peut être très vite rancunier. On peut très vite tomber dans la rancune. Il faut vite aller à la croix. Et là, dire, Seigneur, adoucis-moi. Adoucis mon cœur. Enlève cette rancune, Seigneur. Parce que si tu ne l'enlèves pas très vite, il va pousser des racines d'amertume. Et les racines, après, c'est difficile à les enlever. Une fois qu'elles sont plantées, une fois qu'elles sont là, c'est difficile. Et c'est dommage de passer une vie chrétienne avec de la rancune, de l'amertume, avec de la rancœur. Seigneur, je ne veux pas ça. J'ai marqué un fleuve d'inquiétude. Un fleuve d'inquiétude. Nous vivons des temps difficiles, hein. Qui n'est pas inquiet des fois? Vous n'êtes jamais inquiet? Vous êtes formidable. Tu les as vraiment. Il faudrait que je vienne un peu plus souvent, moi, ici, hein, mais c'est enseigné aussi. Hein. un fleuve d'inquiétude. Bon, entre nous, hein, soyons humbles. C'est vrai que des fois, il suffit de rien. Paf! Et d'un coup, on devient inquiet. Oh, je suis inquiet. Mais qui va gagner, la France ou... Non, c'est pas ce genre d'inquiétude-là. Hein. C'est pas du tout ça, hein, c'est pas du tout ça. Si c'est ça, alors c'est pas grave ça. Mais l'inquiétude, c'est par rapport au boulot, le chômage, tout ce qu'on entend aujourd'hui, comment je vais payer mon loyer et comment je vais faire et mes enfants. Ça, oui, ça c'est important tout ça. Et c'est normal. Mais Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. C'est dur, hein. Seigneur, aide-moi. Aide-moi par ton esprit, parce que c'est par le Saint-Esprit que c'est possible. Aide-moi, Seigneur. Une colline de découragement. Une colline. Une colline, ce n'est pas la montagne, hein. C'est la colline, c'est une petite colline de découragement. Hein. Il ne faut pas grand-chose aussi. Une montagne de problèmes. Si vous saviez, frère, j'ai une montagne de problèmes. Ah ben, tant pis pour vous. Vous n'avez pas de chance. Et on a tous des montagnes de problèmes quelque part. Mais vous savez, si nous savons placer notre confiance dans le Seigneur, vous savez, il n'y a pas de secret, hein. On n'est pas meilleur, je ne suis pas meilleur que vous, et personne n'est meilleur l'un que l'autre, on est tous pareils, on est tous faits de la même pâte. Hein. Mais si nous savons placer notre confiance dans le Seigneur, si nous savons rechercher le Seigneur, si nous savons nous humilier devant le Seigneur, si nous savons nous attendre au Seigneur aussi, et persévérer aussi, eh bien, je crois que par son esprit, le Seigneur nous donnera la force de triompher, d'avancer, de surmonter, de traverser toutes ces difficultés qui se dresseront sur notre chemin. Et il y en aura toujours. Vous savez, des fois, il y a des frères qui pensent, ou des sœurs qui pensent que parce qu'ils sont arrivés à la retraite, c'est fini. Ça, ça y est, j'ai 62 ans, 63 ans, 60 ans, ça y est, j'ai la retraite, c'est fini. Eh bien, mon pauvre. Des problèmes, tu en auras encore, hein. Même après la retraite. Hein. Non, il ne faut pas la prendre. Mais tu en as toujours des problèmes. Tu en auras jusqu'à la fin de tes jours. Mais apprends à compter sur le Seigneur. Apprends à compter sur lui. Amen. La Bible dit, celui qui vit en nous. Celui qui vit en nous. Qui c'est qui vit en toi, en moi? C'est le Seigneur par son esprit. Celui qui vit en nous. Il est plus fort que celui qui est dans le monde. Avec Jésus, je peux triompher. Et la Bible nous dit encore que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en Jésus. C'est pas autre chose, hein. Seigneur, aide-moi et apprends-moi à compter sur toi. J'ai besoin de toi. Il dit encore, qu'as-tu, mer, pour t'enfuir, Jourdain, pour retourner en arrière? Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux? Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang, le roc en source d'eau. Alléluia. Vous savez, béni soit le Seigneur pour ce peuple qui a vu quand même de grands prodiges. Honnêtement, franchement, ils ont vu quand même la gloire de Dieu, pas qu'une fois. La colonne de feu, la nuit, la colonne de nuée, le jour, la manne, chaque matin, qui se répandait comme la rosée. Hein, la rosée venait, en même temps que la rosée, elle venait, la manne, elle se déposait, et elle avait le goût de la coriandre. Moi, j'aime bien la coriandre, en plus. Ça fait longtemps que ma femme a fait un plat à la coriandre. Voilà. Elle a bien entendu, c'est bon. Mais c'était avec de l'huile, c'était spécial. Hein. Il faisait ça, vous savez. Chacun, il allait partir le matin et il ramassait... Pour lui, hein. Voilà, la dose qu'il fallait, hein. Et puis alors, c'était préparé, hein. Il fallait piler tout ça, il fallait au mortier, je crois. Enfin, ça faisait une sorte de pâte. Et puis finalement, il fallait faire cuire cela. Et puis après, on mangeait. Bon appétit. Ça fait penser aussi à la parole de Dieu que nous devons méditer chaque jour, tous les matins. Tous les matins, on va chercher dans la parole ce dont nous avons besoin. Amen. Il n'y a pas besoin de lire toute la Bible en un jour. Hein. Ça va? Je rassure peut-être certains. Parce qu'une sœur, il n'y a pas longtemps chez nous, là-bas. Parce que chez nous, ils ont besoin de la grâce de Dieu. Mais elle est venue, elle me dit, « Oh, mes frères, c'est difficile d'apprendre par cœur toute la Bible. » Alors, j'étais gêné. Je voulais lui dire, t'inquiète pas, je la connais pas par cœur. Non, mais c'est pas ça qu'il faut, hein. C'est pas le fait d'apprendre par cœur, de lire 20 chapitres par jour. C'est se délecter, c'est savourer ce moment où on est au contact de la parole. Seigneur, c'est bon ta parole. Bon, alors, je sais pas où vous en êtes dans vos lectures, mais bien qu'elle est merveilleuse cette parole. Que tu sois dans les Lévitiques, dans les Chroniques, dans les Psaumes ou dans l'Évangile, peu importe. Donne-moi, Seigneur, d'aimer ta parole, de la recevoir, de m'en délecter. Amen, de l'apprécier. Elle est si bonne, cette parole. Un des prodiges, et on l'a lu, c'est, moi, c'est incroyable, c'est quand l'eau est sortie du rocher, et pas que d'un rocher, hein, de plusieurs rochers, parce qu'il y a eu, plusieurs rochers. Hein, et justement, en parlant du rocher, la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 4, « Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. » Qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée, dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était Christ. Amen. Mais que c'est beau. Alors, je ne sais pas, mais parce que nous, des fois, on lit la Bible comme ça, en une seconde, des fois, on ne réfléchit pas trop, on dit, ben, c'est beau. Mais franchement, il fallait quand même de l'eau, beaucoup d'eau, pour désaltérer tout ce petit monde. Enfin, tout ce petit monde. La parole de Dieu nous dit qu'ils étaient 600 000 hommes, à peu près, sans compter les femmes, les enfants et les troupeaux. Donc c'était pas rien. Et alors, si encore ils étaient, vous savez, dans une forêt équatoriale où il y a de temps en temps des fleuves qui viennent, ça va, à la rigueur, tu te dis, bon, ça va, et puis... Mais là, dans un désert quand même, dans un désert, comment tu peux nourrir quand on voit aujourd'hui que certains, des fois, meurent dans un désert alors qu'ils ont la gourde, alors qu'ils ont des tas de choses, et bien ils arrivent encore à mourir. Et là, 600 000, plus les troupeaux, les enfants, les femmes, c'est quand même... Vous savez, ils estiment, il y a quelqu'un qui a fait un petit peu le calcul, alors il a pris par rapport à chaque individu à peu près ce qu'il boit, et puis les animaux, parce que les animaux, ça boit aussi. Hein. Il fallait à peu près, hein, on estime, 17 000 mètres cubes d'eau par jour. Bon, c'est vrai qu'après, ils mettaient dans les espèces d'outres, ils avaient des outres là, ils mettaient de l'eau, hein, ils chargeaient, hein, il y avait des provisions, mais quand même, c'est énorme. C'est une petite ville, quoi, hein, 17 mètres cubes d'eau. Hein. Eh bien, la parole de Dieu nous dit que l'eau, le Seigneur, il la faisait jaillir comme un fleuve. Non, c'était pas un petit filet d'eau. Hein. Moi, au début... Au début, je pensais que c'était comme un petit robinet, vous savez, qui coulait. Je disais, chacun, il attendait, chacun son tour. Attends un peu, toi là-bas, le 600 millième, là. Attends un peu, c'est bientôt ton tour. Non. La parole de Dieu, alors il y a des versets qui nous parlent. Dans le psaume 78, au verset 15, il est dit, « Il fendit des rochers au milieu des déserts, et il fit jaillir des flots abondants, des sources d'eau, des fleuves. » Mais que j'arrive à m'imaginer que d'un rocher, où il ne sort normalement rien, un fleuve, des ruisseaux, des sources jaillissent. C'est pas possible. Et pourtant, si j'écoute le vieux Franck, le vieil homme, hein, je me dis c'est pas possible, c'est pas possible. Eh bien pourtant. Et même les enfants, ils devaient même aussi s'amuser aussi. Après, j'imagine que les petits enfants, ils devaient être là dans l'eau en train de s'envoyer des. Non, mais c'est vrai, parce que bon. Mais moi je dis c'est glorieux, c'est miraculeux. Mes frères et sœurs. Croyez que le Seigneur n'a pas prévu que notre route est longue? Je ne parle pas de l'eau que vous avez chez vous, là. Hein. Croyez pas que notre âme, elle a besoin aussi d'une eau fraîche croyez pas que nous n'avons pas besoin d'être renouvelés? Tu crois que tu n'as pas besoin, mon frère, parce que tu t'appelles monsieur ou madame, tu crois que tu n'as pas besoin d'être renouvelé dans ta foi, d'être renouvelé dans ta marche, d'être renouvelé dans ta vision, dans ta louange, dans ton intercession, dans ta consécration, dans ta communion avec tes frères et sœurs? Tu n'as pas besoin d'être renouvelé, tu crois? Mais bien sûr qu'on a besoin d'être renouvelé, mais le Seigneur a prévu, il a dit, des fleuves d'eau vive jailliront et couleront dans votre cœur. Amen. Jean chapitre 7, verset 37. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Des fleuves d'eau vive couleront et jailliront. Mais quelle grâce! Seigneur, je dois veiller sur cette source. Vous savez, la source, elle est là. Elle est là, dans mon cœur. Et elle jaillit. Mais à moi de prendre soin de cette source. Attention, qu'elle ne se bouge pas. Attention, parfois tu peux passer même à côté et tu ne la vois pas. Mais elle coule toujours. Le fleuve de Dieu coule toujours. Le ruisseau de Dieu, il est toujours plein d'eau. Hein. Nous, on est un peu sec parfois, malheureusement. Mais lui, c'est plein là-haut. Ça regorge de bénédictions. C'est une abondance que le Seigneur a pour nous. Et si ce matin, tu as besoin d'être renouvelé, mon frère, ma sœur, le Seigneur est là. Vous savez, quand on n'est pas renouvelé, qu'est-ce qui se passe? On devient aigre. On n'est pas content. On murmure. Regardez le peuple d'Israël. Ils commençaient à murmurer parce qu'ils n'avaient pas d'eau. À quoi on reconnaît un chrétien qui manque d'eau, qui n'est pas rafraîchi, qui n'est pas renouvelé? Murmure, critique. Pas content, jamais content, toujours en train de regarder ce qui ne va pas. Et ce Moïse-là, hein, on n'était pas mieux là-bas en Égypte. Là-bas, on avait des melons, des oignons, des concombres. Et ici, c'est que du sable. Alors qu'ils avaient la manne, les cailles, de temps en temps, ils avaient surplus. Ils avaient les cailles. Mais c'est pas beau. Seigneur, apprends-moi à pas murmurer. Et si, Seigneur, je venais à le faire, c'est la preuve que j'ai besoin d'être renouvelé. Le psaume 110, verset 7, et je termine. Le psaume 110, verset 7 nous dit, il boit au torrent. Il boit au torrent pendant la marche. Amen. Et pour moi, le rocher, c'est Christ. Et pour moi, le torrent, c'est Christ. C'est pourquoi il relève la tête. Oh, ce matin, peut-être quelqu'un est-il abattu, découragé. Mon frère, ma sœur, le torrent, il est là. Il est toujours là, le torrent. Il coule toujours. Alors, je vous avoue, c'est un torrent spirituel. Mais il coule toujours. C'est à nous d'aller vers le Seigneur. C'est à nous d'aller vers la source. Pour boire, il faut aller à la source. Hein. Ce n'est pas la source qui va venir. C'est à nous d'aller vers lui. C'est à nous de fléchir les genoux et de dire, Seigneur, j'ai soif. Et le Seigneur est dit, mais prends, bois, désaltère-toi, remplis-toi. C'est mon désir. Croyez que le désir du Seigneur, ce n'est pas de nous remplir de son esprit, de sa vie, de sa joie, de sa paix, de sa grâce, d'une espérance glorieuse. Ça aussi, c'est merveilleux. Alors merci Seigneur, parce que finalement, ce peuple, après tout, ils sont arrivés quand même, hein, dans le beau pays de la promesse. Bon, après, il y a eu des combats et des luttes encore, hein, mais il est arrivé. Et je crois que, mes frères et sœurs, avec l'aide de Dieu, avec la grâce de Dieu, on y arrivera. Si on est ensemble, unis, soumis au Seigneur, obéissant, si on sait le chercher, s'humilier devant lui, si on sait reconnaître nos faiblesses devant lui aussi, il sera là pour nous aider à aller jusqu'au bout du chemin. Amen. Et bientôt, nous serons là-haut, dans la gloire éternelle. Et le Seigneur essuiera toutes larmes de nos yeux. Moi, j'aime bien ce passage. Il y en a deux de passages comme ça dans l'Apocalypse. Hein. Il essuiera toutes larmes de vos yeux et il n'aura plus faim, plus soif. Le soleil ne frappera plus, etc. plus de fardeau, plus de soucis, la mort ne sera plus, le deuil, la maladie, les cris, la souffrance. Ça vaut la peine de persévérer, non ? Jusqu'à la fin. Alors puissions-nous marcher toujours près du Seigneur et il ne manquera pas de nous conduire dans le beau pays de la promesse. On va prier. Je laisserai la place pour terminer à notre frère. Seigneur, merci encore pour ta parole. C'est vrai que tu nous as racheté un grand prix. Seigneur, tu ne nous as pas racheté pour que nous fassions n'importe quoi, nous vivions n'importe comment. Mais tu nous as racheté, Seigneur, au prix de ton sang. Et tu nous as racheté pour que nous soyons ce peuple qui te sert de tout son cœur, qui te loue, qui t'adore, qui marche dans tes voies. Et c'est vrai qu'il doit y avoir une différence entre le peuple de Dieu, l'Église fidèle, et puis le reste. Seigneur, aide-nous à comprendre ta volonté. Aide-nous, Seigneur, à la mettre en pratique, ta parole. Aide-nous, Seigneur, les uns les autres. Nous avons tellement besoin de toi. Nous sommes si longs à comprendre parfois. Seigneur, moi je veux pas juger ce peuple d'Israël parce que malheureusement, parfois au milieu de nous, Seigneur, que de négligence, que de désobéissance, que de murmures parfois, que de choses qui ne sont pas à ta gloire parfois. Seigneur, vraiment apprends-nous à marcher dans tes voies. Seigneur, merci de bénir chacun de nous ce matin. Seigneur, tu connais nos besoins et tu as tout prévu, Seigneur, pour nous bénir sur le chemin. Et nous avons tout, Seigneur, nous avons ta parole, nous avons l'action de ton esprit, nous avons l'Église, la communion fraternelle. Nous avons tout, Seigneur. Tu nous as tout donné, Seigneur, pour que nous arrivions, Seigneur, là-haut, dans ce ciel de gloire, alors que nous puissions nous servir, que nous puissions, Seigneur, venir auprès de toi. Bénis-nous encore, fortifie-nous, enrichis-nous, rafraîchis-nous, nourris-nous encore, Seigneur. On a tellement besoin de toi. Je veux t'apporter ces nouvelles âmes qui s'engagent, Seigneur, dans les eaux du baptême. Seigneur, c'est un départ. C'est un départ, Seigneur. Ah, que dans ta grâce, elles puissent toutes aller jusqu'au bout, comme nous-mêmes, Seigneur. Seigneur, nous sommes tous appelés à aller jusqu'au bout, Seigneur, de ce chemin. Mais avec ta grâce, nous y arriverons. Seigneur, merci encore pour toute grâce excellente, tout don parfait qui nous vient de toi. Je te loue et je t'adore, mon Sauveur. Amen.